Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. 2021 sera marqué par une figure historique dont la vie, le parcours et le souvenir ne cessent de nourrir l'imaginaire de notre nation, voire au-delà des frontières, et ce même 2 siècles après sa disparition. Celui qui s'est proclamé empereur des Français le 2 décembre 1804 et qui est décédé à Sainte-Hélène en exil le 5 mai 1821 à l'âge de 51 ans est devenu plus qu'une légende, un mythe. Et pour commencer cette nouvelle année, que je nous souhaite excellente, notre première émission s'ouvre donc avec celui dont on célèbre le bicentenaire de la mort, Napoléon. Bonjour Philippe Forest.
Bonjour.
C'est avec vous que nous allons aujourd'hui évoquer cet homme qui a fait couler autant d'encre que de sang, puisque vous venez de lui consacrer un essai dans la collection des hommes qui ont fait la France chez Gallimard, sous le titre « Napoléon, la fin et le commencement », un texte plus littéraire qu'historique, même s'il est parfaitement documenté, car l'écrivain que vous êtes s'est intéressé, à juste titre, au romanesque qui préside dans son parcours. En effet, il est né des livres qu'il a lus, il a écrit beaucoup, et il a inspiré des milliers d'ouvrages, et pas seulement des biographies, des récits, des fictions également, signés de Balzac, Hugo, Stendhal, Dumas, Chateaubriand, bien sûr, jusqu'à nos plus contemporains avec en tête Jean-Paul Kaufmann. Des textes d'admiration, de rejet parfois, mais quoi qu'il en soit, des textes portés par une forme de fascination. Et d'ailleurs, vous, Philippe Forest, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire sur Napoléon, même si l'idée vous a été soufflée par un éditeur?
Oui, c'est d'abord le hasard, la proposition qui m'a été adressée dans cette belle collection des hommes qui ont fait la France. Donc il s'agit à chaque fois de demander à quelqu'un qui n'est pas forcément un historien de tracer un portrait personnel d'un des hommes ou des femmes d'ailleurs qui ont fait la France. Et donc on m'a demandé si j'accepterais de faire un Napoléon. J'ai d'abord refusé parce que je ne me sentais pas capable. Puis je me suis dit que ça pouvait être une expérience amusante pour moi et peut-être intéressante pour le lecteur, dans la mesure où j'avais carte blanche pour traiter le personnage d'une manière qui me convienne, d'où le caractère effectivement plutôt littéraire du portrait que je propose. Mais en même temps, j'étais ravi de cette proposition. Je n'aurais jamais eu l'audace moi-même de proposer à un éditeur d'écrire sur Napoléon, mais comme beaucoup de monde, comme tout le monde peut-être, en tout cas comme tous les Français, j'éprouve une fascination ancienne qui remonte à l'enfance pour Napoléon, qui se nourrit des livres que l'on lit enfant, des livres illustrés, du cinéma aussi, avec le Napoléon d'Abel Gance, et toutes ces choses voilà qui nous sont familières à nous tous.
Alors justement, la littérature au cœur de votre projet, Philippe Forest. Et d'ailleurs, Napoléon lui-même aurait dit, même si on n'est pas sûr de la fiabilité de la source, que sa vie était un roman. En quoi sa vie est-elle un roman ?
Et je crois que toute vie est un roman, et précisément ce qui m'intéresse dans cette citation, c'est qu'elle rejoint une réflexion qui est la mienne, mais pas exclusivement la mienne, sur les rapports qui existent entre la fiction et la réalité. Bon, à tort ou à raison, on m'a souvent présenté comme un auteur d'autofiction depuis mon premier roman « L'enfant éternel », et il est vrai que la plupart de mes romans sont nourris de mon existence, de mon expérience, mais en même temps, ce qui m'a toujours intéressé dans la littérature, telle que je la pratique et telle que je l'aime chez les autres, c'est la manière dont elle nous montre comment toute réalité est tissée de fiction, comment toute vie en réalité est un roman, comment s'opère une sorte de mécanisme vase communicant entre la réalité et la fiction. Alors c'est vrai pour le moindre, j'allais dire le plus petit d'entre nous, mais c'est vrai de manière encore plus spectaculaire pour un personnage de la taille de Napoléon. On est absolument incapable de départager le réel du fictif, même si bien sûr il appartient à l'historien d'établir les faits, et il doit s'employer à cette tâche, c'est tout à fait nécessaire, impératif, mais une fois qu'on a dégagé les faits, eh bien, il n'existe plus indépendamment des rêves qu'il nous inspire.
Alors, les faits, les voici. Né à Ajaccio en 1769, alors que la Corse vient tout juste de devenir française, sa famille va se retrouver dans l'opposition, va être obligée de s'exiler. Mais en fait, là, déjà, il y a un quiproquo, parce que lui, il est sur le continent dès l'âge de 10 ans. Oui. Donc, en fait, est-il vraiment corse? Est-il vraiment italien? Ou est-il purement issu de cette éducation dans l'est de la France?
Je l'écris, mais j'hésite un peu à le dire, tant la susceptibilité des Corses est proverbiale. Mais Napoléon a toujours insisté sur le fait qu'il se sentait beaucoup moins corse que français, et notamment en fait du fait de cette éducation qu'il a reçue tout enfant, donc au collège militaire de Brienne. Mais en vérité, ce qui est intéressant aussi chez Napoléon, et ce qui me le rend sympathique, ce qui fait aussi l'intérêt politique de l'exemple qu'il nous donne, c'est qu'il a toujours pensé qu'on était français si on se voulait français. Et il n'est absolument pas quelqu'un qui considère que l'identité nationale soit le fait d'un héritage racial, bien sûr, mais ou religieux ou culturel. Non, il est vraiment de ce point de vue-là un enfant de la Révolution. Il croit en la France, mais il pense que chacun peut devenir français s'il le souhaite. Donc la Corse, pour lui, il garde sans doute de son enfance un souvenir un peu nostalgique et attendri, parfois encore que, mais la Corse, il la laisse derrière lui à partir du moment où il considère que son avenir est européen, mais passe essentiellement par l'adhésion à cette nation française qu'il a choisie.
Et puis Napoléon, enfin, à cette époque, il est encore Bonaparte, incarne aussi la figure de l'étranger. Ça, c'est une figure éminemment romanesque.
Oui, tout le monde s'accorde à dire que Napoléon ne parlait bien ni le français ni l'italien, qu'il le parlait en tout cas en ce qui concerne le français avec un très fort accent. Il a toujours considéré qu'il était en quelque sorte français, mais il a toujours été considéré par les autres comme s'il était un étranger. Et c'est d'ailleurs une critique qui revient très souvent sous la plume de ses détracteurs, à commencer par Chateaubriand. Voilà, on le considère comme un étranger, comme un intrus, mais c'est cet étranger, c'est un truc qui a compté que bien plus que beaucoup d'autres dans la construction de la nation française.
Et puis aussi, il fait sa carrière militaire beaucoup à l'étranger, puisqu'il fait la campagne d'Italie, ensuite il va en Égypte. Finalement, quand il arrive, à la fois il est auréolé de ses gloires militaires, de son génie, de son talent, de son opportunisme, mais il est inconnu finalement là où se fait le pouvoir en France. Est-ce qu'on peut dire qu'il a une fougue naturelle et une autorité qui font qu'il va pouvoir s'imposer et devenir l'empereur des Français, ou ça c'est ce qu'on se raconte toujours après que l'histoire a eu lieu?
C'est ce qui m'a intéressé, et d'où le titre du livre, justement La fin et le commencement, c'est-à-dire chaque fois qu'on raconte une histoire, on la raconte toujours en commençant par la fin, et c'est ce qu'on appelle l'illusion rétrospective, mais elle est indissociable de la légende qui se construit. Donc qu'est-ce qui a fait que Napoléon est devenu Napoléon? Personne ne peut véritablement le dire, même si son destin nous semble aujourd'hui quelque chose de naturel et en quelque sorte d'irrésistible. Bonaparte aurait pu ne pas devenir Napoléon, certainement. Il était pourvu de qualités éminentes, notamment une volonté d'acier qui lui a permis de triompher de bien des obstacles, mais cette volonté, elle n'aurait été rien sans les circonstances très chaotiques de l'après-révolution française qui ont permis à Napoléon, avec l'opportunisme qui a été le sien, de jouer son jeu avec une habileté qui, du jour au lendemain, l'a porté au sommet du pouvoir.
Et donc, entre Balzac et Hemingway, qui encadre votre essai, Philippe Forest, vous vous penchez sur cet homme qui n'a eu le pouvoir finalement qu'une quinzaine d'années. En
oui,
France,
c'est très
très peu. Sur qui on a écrit tout et son contraire. C'est extraordinaire comme il donne matière à tous les fantasmes et à toutes les analyses qui suscitent beaucoup d'interrogations. À quel moment Bonaparte est-il devenu Napoléon? Y a-t-il eu deux hommes en lui? Il brouille tous les partis politiques, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Il échappe à beaucoup d'analyses. Et en fait, j'ai envie de dire que la seule chose dont on est sûr, c'est que c'est une énigme. Et c'est un socle littéraire évidemment passionnant, et c'est pour ça que vous en parlez par le prisme de la fiction. Mais vous, Philippe Forest, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce parcours? Qu'est-ce qui vous touche le plus comme citoyen, j'ai envie de dire.
Comme citoyen, il y a un certain nombre de choses qui me touchent chez Napoléon. J'évoquais justement la distance qu'il prend à l'égard de l'idée d'identité nationale, la manière dont il incarne un certain nombre d'idéaux révolutionnaires, notamment un désir d'égalité, qui sont des choses absolument essentielles encore aujourd'hui dans le cadre démocratique qui est le nôtre. Donc il y a tout un héritage napoléonien qu'il y a lieu de revendiquer. Mais il y a aussi d'autres choses de nature différente qui me plaisent chez Napoléon. J'ai pu intégré au livre qui est avant tout un livre historique et politique, même si c'est abordé sous un angle, donc un angle littéraire. J'ai pu intégrer au livre un chapitre sur la psychologie de Napoléon, son rapport aux femmes. C'est aussi quelque chose de tout à fait passionnant, la formidable histoire d'amour qui le lie à Joséphine, les légendes absolument extravagantes qui se sont développées au sujet de ces différentes amours. Et puis, ce fond quand même très mélancolique qui a été le sien. C'est quand même assez étonnant. Il triomphe de tous les obstacles. Et une fois qu'il est au sommet, une fois qu'il est au pinacle, lui-même prend un certain nombre de décisions absolument aberrantes et catastrophiques qui vont le conduire à sa chute. Comme si finalement il avait cherché l'échec auquel il finit par aboutir. Comme si l'échec, la catastrophe, était en quelque sorte pour lui le signe ultime de la grandeur de son destin.
Et parmi les choses détestable, n'oublions pas de souligner qu'il rétablit, hélas, l'esclavage, et que ça, pour le coup, c'est pas une des grandeurs napoléoniennes.
Non, en même temps, on ne trouve pas du tout chez Napoléon de propos ou de pensées racistes, mais c'est vrai que par opportunisme, disons, il rétablit l'esclavage, qu'il va néanmoins abolir à nouveau lorsqu'il reviendra au pouvoir lors de l'épisode des 100 jours. C'est avant tout un pragmatique un peu machiavélien et qui sait se dispenser des principes qui sont les siens lorsqu'il pense que c'est dans son intérêt, c'est vrai.
Comment raconter Napoléon? Ce sont peut-être les romanciers qui l'ont mieux fait, en le mettant non pas au cœur des récits comme personnage, mais comme une ombre qui plane au-dessus. Et c'est ce qu'a fait magnifiquement Balzac avec son colonel Chabert, l'histoire de ce soldat tombé à la bataille d'Eylau en 1807, tenu pour mort et qui, 10 ans après, rentre à Paris. Extrait du film d'Yves Angelo, adapté du roman, avec ici Gérard Depardieu dans le rôle titre et Fabrice Lucchini qui lui donne la réplique.
Monsieur, à qui ai-je l'honneur de parler ?
Au colonel Chabert.
Je vous écoute.
Monsieur, je désirerais ne confier qu'à vous le secret de ma situation.
Vous pouvez nous laisser, Boucard.
Mais...
Non, reposez-vous bien.
Bien, patron. J'ai tout préparé.
Je vous verrai tout cela, c'est bien. Allez, Boucard, à demain. Parfait. Monsieur, je suis à vous. Ne vous formalisez pas si je dois lire quelques documents tout en vous prêtant l'oreille la plus attentive. Simplement, au milieu de la nuit, les minutes sont précieuses. Je vous prierai d'être exact et bref. Allez au fait, sans digression. S'il est nécessaire, je vous poserai moi-même les questions utiles.
Donc, Chabert, colonel, je commandais un régiment de cavalerie à Eylau, où je suis mort le 8 février 1807. J'ai été pour beaucoup dans la charge que fit Murat, qui décida du gain de la bataille. Oui, je peux même dire que c'est moi aussi qui ai sauvé l'affaire. J'ai traversé les lignes russes. 3 lignes qui se sont regroupées derrière moi au moment où nous revenions vers l'empereur après avoir dispersé et massacré les Russes quand... Deux officiers, des géants. Ils m'attaquent ensemble et m'ouvrent le crâne à coups de sabre. Et je tombe de cheval.
Vous Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui Philippe Forest, avec qui nous parlons de l'homme dont on commémore le bicentenaire de la disparition en cette année 2021 et à qui vous avez consacré cet essai intitulé Napoléon, la fin et le commencement. D'abord, pourquoi cette inversion facétieuse avec la fin et le commencement que vous inversez aussi dans le titre?
Je cite une réplique de Jacques Prévert dans Les Portes de la Nuit, en épigraphe. C'est le destin qui est interprété par Jean Villard dans ce film, qui s'adresse à Yves Montand et qui lui dit « Si Napoléon n'était pas mort à Sainte-Hélène, peut-être n'aurait-il jamais vu le jour à Ajaccio. » Ce qui est bien dans l'esprit surréaliste de Prévert, qui est amusant, mais qui est aussi porteur d'une vraie vérité. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, finalement, les histoires, on les raconte à partir de leur fin. C'est leur fin, la fin que nous leur donnons, qui leur confère leur signification. Donc, on ne peut pas raconter l'histoire de Napoléon, je crois, aujourd'hui, sans le faire à la lumière de l'échec auquel cette histoire aboutit, la défaite de Waterloo et l'exil, la mort à Sainte-Hélène. Donc, je choisis de partir de cet échec, parce que je crois que c'est cet échec qui nous donne la clé mélancolique, tragique de ce destin que j'essaye de raconter. D'où le premier chapitre, qui est donc consacré à la bataille de Waterloo, mais à la bataille de Waterloo telle que Victor Hugo la raconte dans Les Misérables. Ce qui est quelque chose qu'on oublie souvent, parce que ça n'est pas des épisodes les plus célèbres du roman, mais malgré tout, par une sorte de flashback, au début des Misérables, Victor Hugo nous raconte cette défaite, puisque Thénardier se trouve sur le champ de bataille, il est l'un des soldats de l'armée napoléonienne. Et Victor Hugo a des pages absolument magnifiques qu'il consacre notamment à la figure de celui qu'il considère comme le grand vainqueur de Waterloo et qui est le général Cambronne. Parce qu'il est celui qui ne se rend pas jusqu'au bout.
Et qui aurait dit le fameux mot de Cambronne, voilà, que nous ne prononcerons pas ici, même s'il pourrait nous porter chance pour cette année 2021. Hugo, qui a une relation très ambivalente avec Napoléon, mais on peut dire la même chose de Stendhal, on peut dire la même chose de Chateaubriand, c'est-à-dire que dans un premier temps, ce sont des écrivains qui sont plutôt fascinés par l'homme, par le militaire, par sa carrière, et qui, à un moment, se retournent un peu contre lui et d'ailleurs sont assez sévères à l'encontre de Napoléon.
Oui, ces trois écrivains, j'ai choisi de les mettre en quelque sorte en avant parce qu'ils ont tous, comme vous le dites, ce rapport ambivalent à Napoléon. Mais l'ambivalence s'exprime de façon différente dans un cas ou dans l'autre. Victor Hugo, bien que son père ait servi sous les armes sous Napoléon comme militaire, Victor Hugo commence par détester Napoléon parce que il commence sa carrière littéraire et politique en tant qu'écrivain royaliste, légitimiste, et puis progressivement il va changer d'avis et il va donc louer, exalter la figure de Napoléon jusqu'à ce que l'arrivée au pouvoir du neveu de Napoléon Ier, de Napoléon III, donc
le petit,
conduise Victor Hugo à changer une nouvelle fois d'attitude et à exalter en quelque sorte le souvenir de Napoléon Ier pour mieux dévaloriser et déprécier Napoléon III, tout en n'oubliant pas que malgré tout, à ses yeux, aux yeux de Victor Hugo, Napoléon a trahi l'idéal révolutionnaire à l'occasion du coup de Brumaire. C'est la leçon des châtiments tels que Victor Hugo les écrit au début du Second Empire.
Et de fait, lui aussi, à son tour, Victor Hugo va être exilé.
Oui.
Et sur une île en plus. D'abord l'île de Jersey et ensuite l'île de Guernesey, où il va d'ailleurs finir d'écrire Les Misérables et également Les Travailleurs de la Mer, qui est un de ses grands chefs-d'œuvre. Même chose pour Stendhal, qui au début est un napoléonien convaincu.
Lui aussi, il sert dans l'armée napoléonienne. Mais en même temps, il éprouve un certain nombre de réserves à l'égard de Napoléon, et notamment parce qu'il reproche, lui, à Napoléon d'être devenu Napoléon, précisément. C'est-à-dire, il lui reproche de s'être fait couronner empereur. Mais après la défaite de Waterloo, et plus encore après la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, Stendhal va revenir avec un peu de nostalgie vers cet homme qu'il avait parfois un peu critiqué, et il va s'engager dans l'écriture de deux ouvrages qu'il laissera inachevés et qui auraient dû être consacrés à Napoléon.
Et pour finir, Chateaubriand, qui a sans doute été son meilleur ennemi.
Ah ben je crois que de tous les grands écrivains du 19e siècle, c'est chez Chateaubriand qu'on trouve les pages les plus extraordinaires consacrées à Napoléon. Il a d'abord été fasciné par Bonaparte au point de l'avoir courtisé et déçu peut-être du peu d'égard que Napoléon a eu envers lui. Chateaubriand finalement a pris ses distances jusqu'au moment notamment où il considère que Napoléon se salit les mains de manière inacceptable et monstrueuse. Pour Chateaubriand, le crime de Napoléon, ça n'est pas Brumaire, comme le dit Hugo, mais c'est l'assassinat du duc d'Enghien. Et il y a des pages absolument magnifiques consacrées à cet événement, notamment dans les mémoires d'outre-tombe.
Un homme qui était opposé et que Napoléon a fait assassiner froidement, en oui. le tuant après un procès tout à fait sommaire, qui n'était même pas digne de ce nom.
Voilà, et comme il appartenait à la famille royale, Napoléon bascule aux yeux de Chateaubriand, du coup, dans le camp des régicides.
On a parlé donc des écrivains de l'époque napoléonienne. L'héritage, il est aussi littéraire avec des auteurs contemporains qui s'en inspirent. Alors, Philippe Forest, vous citez Jean Rollin, Jean-Marie Roire, Sylvain Tesson, et puis Jean-Paul Kaufmann, oui. qui non seulement lui a consacré un premier livre intitulé « La chambre noire de Longwood », qui revenait sur l'exil à Sainte-Hélène, mais qui à nouveau s'intéresse à Napoléon avec son superbe texte « Outre-Terre », où là il raconte son voyage en famille, en Russie, sur les lieux de la bataille d'Eylau, deux siècles après la défaite. Et à l'occasion de la publication de ce livre en 2016, il nous expliquait ce qui l'avait conduit à ce périple. Jean-Paul Kaufmann.
Dans un de mes livres, La chambre noire de Longwood, je relate justement cette visite à Eylau. Et à Sainte-Hélène, Napoléon ne veut pas entendre parler de ce mot, Eylau, parce que il a eu très chaud, il a failli tout perdre, il a été à deux doigts d'être capturé, et c'est le premier avertissement du règne. Donc, en 1997, au moment de la parution de ce livre, La chambre noire de Longwood, j'ai eu cette idée un peu saugrenue, tiens, un voyage suffisamment loin dans le temps qui permettrait d'être ensemble, de nous réunir, parce qu'on a été longtemps séparés, puis une sorte de test permettant de mesurer la cohésion de la famille Kaufmann. Voilà, donc c'est une idée en l'air et qui est lancée en l'air 10 ans avant l'événement, le voyage. Donc c'est un anniversaire qui a lieu, 200e anniversaire, en février 2007.
Voilà, Jean-Paul Kaufmann, un écrivain d'aujourd'hui qui s'est intéressé à Napoléon à deux reprises avec ce remarquable Outre-Terre qui lui aussi part sur les traces du colonel Chabert blessé à Eylau. Mais on a tellement écrit sur ce sujet. Est-ce qu'il y a un défi littéraire à écrire sur Napoléon aujourd'hui ?
Oh, certainement, et je suis loin d'être certain de l'avoir relevé. Jean Tullard raconte, je sais pas comment il a pu faire le calcul d'ailleurs, parce que le chiffre est astronomique, mais Jean Tullard, qui est un des grands spécialistes de Napoléon en France, raconte qu'il s'est publié plus de livres sur Napoléon qu'il ne s'est écoulé de jours depuis sa disparition. Donc il faudrait être très présomptueux pour s'imaginer en mesure d'ajouter quoi que ce soit de vraiment neuf à ce que tous les autres ont écrit avant soi. Bah, simplement, on peut essayer de faire les choses d'une manière un peu personnelle, c'est ce que j'ai tenté de faire à mon tour.
Alors on l'a dit, il y a eu beaucoup d'écrivains qui s'en sont inspirés, à l'affiche aussi de nombreux films, dont un qui se déroule précisément à Sainte-Hélène. Donc c'est la fin, normalement, cette île du bout du monde où il est exilé par les Anglais, décidément encore une île, après la Corse, après l'île d'Elbe, Aix, et de surcroît il est condamné par des Iliens. Et c'était le cinéaste Antoine de Caunes qui s'était lancé dans cette aventure des derniers jours, des dernières semaines, avec ce film intitulé « Monsieur N ». Et là, c'est Philippe Torreton qui incarne Napoléon. Extrait.
J'étais en Russie pour combattre des hommes en armes, et non l'hiver. C'est le froid, et non l'ennemi, qui nous a détruits.
Et à Austerlitz, lorsque vos canons tiraient sur la glacière, n'était-ce pas le même froid qui servait vos intérêts ? si le foie ne porte pas d'uniforme, l'histoire ne devrait pas importer non plus.
L'histoire appartient à ceux qui la racontent, Betsy.
Votre façon de raconter Waterloo doit être très intéressante. À qui doit-on imputer la défaite? Aux hésitations de Grouchy, peut-être?
D'après toi, Betsy?
Je ne sais pas.
Tu devrais. Tout le monde sait très bien que mes ordres n'ont pas été transmis.
Je crois, Majesté, sauf votre respect, que la responsabilité de la défaite, comme celle de la victoire, incombe au chef.
Tu veux vraiment savoir pourquoi j'ai perdu Waterloo? Bouchez-vous les oreilles, mon Toulon. La vérité et l'histoire ne font pas bon ménage.
J'ai perdu. Parce que je me suis levé trop tard.
Maintenant, je vais connaître tous vos secrets, Bonnie.
Non.
Voilà, une autre variation cinématographique autour de la figure de Napoléon par Antoine de Conissy, où l'on saisit l'empereur quelques jours avant sa mort, le 5 mai 1821, donc cela fera deux siècles, à l'âge de 51 ans seulement. De quoi meurt-il finalement, selon vous, Philippe Forest?
Oh, il y a eu toutes sortes d'hypothèses qui ont été
là
élaborées.
Aussi, il y a quelque chose qui nourrit le fantasme collectif.
Notamment, on a longtemps affirmé, enfin certains ont souvent affirmé que Napoléon avait été empoisonné. Mais il est significatif en tout cas que jusqu'à son dernier souffle, disons, Napoléon ait fait réfléchir les gens et susciter comme ça des énigmes de nature, en l'occurrence quasi policière.
À la fin de votre essai, Philippe Forest, vous citez une bibliographie d'une quinzaine de titres seulement, des lectures qui ont nourri votre écriture. Il y a aussi des tableaux, dont deux célèbres, celui signé par David, évidemment, qui est le plus connu, et puis l'autre de Antoine Jean Gros. Que disent ces tableaux sur Napoléon ?
Je les rapproche après d'autres qui l'ont fait avant moi, parce qu'il y a une scène qui est assez belle, qui se trouve rapportée par Barras, qui avait été le mentor de Napoléon et l'amant de Joséphine dans ses mémoires. Donc c'est quelque chose d'assez peu connu, je crois. Et donc ces deux tableaux, le tableau de David qui représente donc le sacre de Napoléon, enfin en vérité le moment où Napoléon pose sur le front de Joséphine la couronne, et de l'autre le tableau de Gros, effectivement, qui représente la bataille de Eylau. Et ce sont comme deux images opposées du destin qui fut celui de Napoléon. Et donc Barras raconte que ces deux grands tableaux, tableaux gigantesques, l'un et l'autre, avaient été exposés côte à côte pour rendre hommage en quelque sorte à l'empereur. Et un Italien, qu'apparemment Barras respecte beaucoup, voyant ces deux tableaux, déclare « sacre et massacre », sacre pour le tableau de David, massacre pour le tableau de Gros. Voilà les deux faces de cet homme, dit-il. Voilà. Donc je trouvais que c'était une anecdote qui était intéressante à rappeler, parce que visuellement, elle faisait apparaître justement les deux versants de cette épopée, l'exaltation du pouvoir personnel et les terribles désastres humains qui s'en sont suivis sur les champs de bataille européens, et notamment à Eylau.
Et voilà, ce côté pile et ce côté face qui font de Napoléon le Janus de son siècle, puisque ni Dieu ni monstre, il était entre les deux et peut-être un peu des deux. Et c'est pour ça que ça reste sans doute une des figures les plus fascinantes et qui continue de nourrir la littérature. Merci beaucoup,
merci
Philippe Forest, d'avoir été à nos côtés pour cette première émission à l'occasion de ce bicentenaire de la mort de Napoléon qui va se tenir tout au long de cette année 2021. Et je rappelle le titre de votre essai, Napoléon, la fin et le commencement, paru aux éditions Gallimard.
Merci.
Littérature sans frontières.